Sia, mais on va un peu voir Noun quelque chose. Nous, on est arrivé face Noun quelque chose. C'est une autre partie du livre qui s'appelle Orot Israël, dans lequel le Rav Kook va expliquer la valeur profonde du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. D'abord du peuple d'Israël et ensuite sur la terre d'Israël. Et, bon, évidemment, le Rav Kook n'a pas vu la création de l'État d'Israël. Le Rav Kook meurt en 1935. Donc il ne verra pas la création de l'État d'Israël. Par contre, à son époque, il y a déjà énormément de choses qui sont mises en place. À son époque, on est déjà après la déclaration Balfour. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est grâce à lui qu'il y a la déclaration Balfour. Vous êtes au courant? Sans le Rav Kook, il n'y a pas de déclaration Balfour. Pas de déclaration Balfour. Pas de SN qui signe la déclaration Balfour à San Remo. Et peut-être pas de... de la main des Turcs pendant la Première Guerre mondiale en 1917. D'abord, vous savez qu'il y a eu un concours de circonstances absolument incroyable. On appellera ça dans l'histoire un concours de circonstances. Nous, on appellera ça... Baruch Shem Min HaShamayim. Où le roi d'Angleterre change. Il y a deux rois d'Angleterre qui meurent. Et donc, finalement, George, qui n'aurait jamais dû monter sur le trône, parce que le cadet, il va quand même... le trône. Et alors que son père et son frère n'étaient pas franchement philo-sémites, lui, le roi George, enfin le prince George, est fan d'Israël. Pourquoi il est fan d'Israël? Eh bien parce que lorsqu'il était plus jeune et qu'il était amiral dans la flotte britannique, lorsque l'Angleterre n'était pas encore en Israël, lorsqu'il n'y avait pas encore la Première Guerre mondiale, donc Israël était sous domination ottomane, il y avait des contacts commerciaux. Et donc un jour, il vient avec son navire, il accoste Todaraba, il accoste à Yafo, et il va se balader à Jérusalem. Ah, il est anglais, donc il est chrétien. Jérusalem, c'est important pour lui. Il va se balader à Jérusalem et il voit qu'il y a une ébullition absolument incroyable dans la ville, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et tout d'un coup, il voit un homme imposant, longue barbe, un habit très « waouh » qui claque. Il voit qu'il est perdu, il lui dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « je ne comprends pas ce qui se passe. » Il dit « écoute, ce soir, ça va être une soirée un petit peu spéciale. Je t'invite. » Et en fait, ce soir, c'était le soir du Seder. Donc, tout le monde s'est organisé, on était juste avant Pessah. Et lui, il ne connaissait pas. Et donc, il est invité par celui qui est le Rishon Letzion. Alors, c'est quoi Rishon Letzion? Alors non, je ne parle pas de futur. Il sera, tu as raison, le futur premier grand rabbin d'Israël séfarade. Mais il faut savoir qu'avant de désigner le grand rabbin d'Israël séfarade, le Rishon Letzion, c'était le grand rabbin de Jérusalem. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore de grand rabbinat d'Israël. Donc, c'était celui qui était déjà considéré comme étant le patron pour être le grand rabbin d'Israël séfarade, le premier grand rabbin d'Israël séfarade. En tout cas, donc George, et lui, il monte sur le trône juste avant la Première Guerre mondiale, au début de la Première Guerre mondiale. Et non seulement lui, il monte sur le trône et il est philo-sémite et c'est le seul de la famille. D'ailleurs, il va mourir 3 ans plus tard et après, ce sera de nouveau un roi qui ne sera pas très très fan de nous. Mais il change aussi le ministre des Affaires étrangères qui est M. Balfour, qui lui aussi est complètement acquis à la cause juive. Rajoute à ça qu'il change l'amiral en chef de la conquête de la Palestine, parce que l'ancien amiral en chef, qui était l'amiral de son frère, vient de prendre une bérésina, il vient de rater complètement la conquête de Gaza, il a raté, et donc comme il a raté, il est destitué, il s'appelait Archibald Mary, et personne ne connaît Archibald Mary, par contre tout le monde connaît son successeur, qui lui aussi est très philosémique, il s'appelle Allenby. Et tout d'un coup, tu as des rues Allenby partout. Ça l'air ? D'ailleurs, Allenby, hein ?
La rue George aussi.
Oui, et la rue King George. Pas seulement George, King George. Ça l'air ? D'accord ? Maintenant, Allenby, il va conquérir Jérusalem. Pas mal. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il conquiert Jérusalem?
Dans la main des Turcs.
Oui, c'était la main des Turcs. C'est la conquête des Anglais et de la Palestine. Mais lorsqu'il conquiert Jérusalem, il donne un message aux Juifs. Il dit, ça fait maintenant des années, voire des centaines d'années, que vous ne pouvez plus le faire. Je veux que ce soir, demain soir, c'est vrai, demain soir, vous allumiez la lumière. Et oui, car Allenby rentre à Jérusalem le 24 qui se lève. Il dit, demain soir, c'est Hanouka, vous allumez la bougie, je veux voir des lumières dans tout Jérusalem. C'est-à-dire, donc, c'est vraiment Mamash Minashamaim, il y a trois personnages, le roi Georges, le ministre Lord Balfour et le général Allenby. En tout cas,
c'est pas
un micro.
C'est du hasard.
Ben Vadaï, c'est du hasard.
D'accord.
Attends.
Ouais.
Attends, pardon. Mais non, pas du tout. Et donc finalement.
Ouais, c'est du hasard.
Mais non, c'est ironique. C'est ironique. Ah bon. Tu vois, et quand on te voit pas, on voit pas que tu es ironique. Donc finalement, lors en 1917, il veut faire sa déclaration Balfour. C'est quoi la déclaration Balfour ? L'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine et va l'aider à réaliser cela. Il a fait meurtre. Mais Lord Balfour, il ne veut pas faire chou blanc. Donc avant de faire sa déclaration officiellement, il va faire un test. Il réunit des rabbins de Londres. Il dit, je vais faire une déclaration aux juifs. Il faut bien que... Oui. Donc je vais demander... Les matchs de boxe, pourquoi?
Ah oui, c'est ma femme.
Ah oui, bravo, bravo. C'est ce qu'on dit, hein, tu sais ce qu'on dit? On dit que l'homme, c'est la tête dans le couple, mais la femme, c'est le cou. Bekitsour, et donc, il va faire un test, une projection test. Vous savez, quand on fait un film, les réalisateurs, ils font une projection test pour voir les réactions du public. Bah, il parle au rabbin londonien. Et les rabbins de Londres, ils lui disent, mais ça va pas la tête. Déclaration Balfour, il manquerait plus que ça qu'on a en Israël. Ça va pas. On est très très bien en Angleterre. Nous sommes des citoyens de Sa Majesté, nous sommes des Anglais. Jamais de la vie, on va aller dans les marécages là-bas, donc ça va pas la tête.
Slecha.
Oui.
Ça me fait de la peine pour mes frères Ashkenaz, d'entendre ça.
Non, ils sont anglais.
Anglais. Mes petits-enfants sont...
Tu dis, ça te fait de la peine pour des frères Ashkenaz parce qu'effectivement, dans le monde séfarade, personne ne s'est opposé aux sionistes. C'est Nahum.
Je sais.
C'est Nahum. Bah, excuse-moi. Il y a des raisons à ça.
Pourquoi ?
Il y a des raisons profondes à ça. Le monde séfarade, il y a deux choses qu'il n'a jamais arrêté d'étudier.
La Kabbalah.
La Kabbalah et le Tanakh. Or, quand tu étudies le Tanakh et la Kabbalah, tu ne peux pas ne pas être sioniste. Parce que ça ne parle que de ça. Or, le monde ashkénaze, il a arrêté d'étudier le Tanakh de manière continue. Il y avait des gens qui étudiaient, évidemment, mais de manière générale, on s'est mis dans la Gemara, et la Kabbalah, c'était que des Yechides Goula. Résultat des courses, dans la Gemara, tu peux arriver à une réflexion analytique, machin, qui va te dire peut-être qu'il vaut mieux rester en Angleterre. Ah non, c'est malheureux. C'est sûr que je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de rabbins séfarades qui se sont ashkénisés et qui s'opposent aujourd'hui au sionisme.
Oui, malheureusement.
Ben oui, exactement.
Par le roux, par...
Exactement. Mais Baruch HaShem, qu'on a encore des séfaradim, des vrais, des officiels, comme il faut. C'est-à-dire, en tout cas, les rabbins de Londres, ils ont dit, non, mais ça va pas la tête, machin. Donc, notre ami Balfour dit, bon, bah, s'ils veulent pas, tant pis pour eux. Il y a un des membres de son cabinet qui est juif. Il dit, écoutez, Lord, je ne sais pas si ça peut vous faire changer quoi que ce soit, mais enfin, on veut faire une déclaration pour les juifs, pour Israël. Vous saviez qu'il y a un rabbin d'Israël qui est à Londres en ce moment? Ah bon?
C'est qui?
Eh bien, il y a un rabbin, il est Ashkenaz aussi, il s'appelle le rabbin Avraham Yitzhak Cohen Cook. Il est à Londres.
Il dit, pourquoi il est à Londres?
Il est à Londres parce qu'il est venu à toute pour être tu sais, quand tu fais une conférence, tu invites un expert. Donc il était invité pour être l'expert qui parle à la conférence de la Agudat Israël. Non, c'était quoi cette conférence de la Agudat Israël? C'était une conférence sur comment on gère le problème de l'assimilation. Et donc, il l'a invité pour venir parler. Il lui a dit, mais j'ai question, t'as besoin de moi. Toi, tu vas très bien parler, Rafet Raïm, t'as pas besoin de moi. Il dit, non, mais moi, je vais parler Torah, machin, nan, nan. Je veux que tu leur expliques qu'il y a une autre option pour lutter contre l'assimilation, ça s'appelle Eretz Israël. Et donc, il leur dit, il vient. Il vient, mais le problème, c'est que la guerre éclate et qu'il est coincé en Europe. Il a arrêté, finalement il est relâché et il va partir en Suisse. Il va partir en Suisse, il va rester un an et demi en Suisse chez un monsieur qui l'héberge avec son fils, s'appelle Mark Kimri. Et finalement il peut partir en Angleterre. Pourquoi ? Parce que là, en Angleterre, à Londres, on a entendu parler du Rav Kook, il est déjà très connu, et on lui dit viens devenir le rabbin de notre communauté, la communauté de Marziké Hadat à Londres. Il leur répond qu'il est prêt à venir à une condition, c'est que dès que la guerre est terminée et qu'il peut repartir, il part. Ils disent OK, et donc il part. Il va à Londres et il devient le rabbin de la communauté de Marziké Hadat de Londres. Donc, Lord Balfour, il vient le voir, enfin il l'appelle, et ils se rencontrent. Et le Rav Kook lui explique que sa déclaration Balfour, c'est la réalisation de la promesse des prophètes, qu'il est en train de prendre sur lui tous les mérites de 2000 ans d'exil, parce que c'est grâce à lui que la libération arrive. Hein ?
C'est un juif.
Non, c'est pas un juif. C'est pas un juif. Mais c'est un chrétien qui aime, c'est un anglican, c'est-à-dire qu'il est chrétien anglican, et il est, pour lui le Tanakh c'est fondamental. Et donc le Balfour il sort avec des étoiles dans les yeux et tout machin, il dit « Yalla, on y va !» Et il fait sa déclaration. Maintenant, cette déclaration, c'est pas un truc qu'il fait à la radio, hein. C'est une lettre qu'il a envoyée à qui ?
Weizmann.
Non.
Au roi.
Non. À Monsieur Lord de Rothschild. Qui lui va la transmettre à Weizmann. Parce qu'en fait, pour l'instant, ça n'a pas encore de réalité concrète. Pourquoi ? Parce que c'est la guerre. Donc, tant que c'est la guerre, de toute façon, il ne va rien se passer. Et effectivement, il va falloir attendre la fin de la guerre pour que finalement les nations créent la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, pour qu'il y ait la troisième VEIDA, conférence de la SDN, à San Remo en Italie. Et là, la SDN va mettre à l'ordre du jour la déclaration Balfour et ils vont signer tous les pays la déclaration Balfour.
C'est pas en 1922 ?
22. 5 ans après la déclaration en elle-même, qui était en 17. Ok ? Et donc là, à partir de là, c'est terminé. Les nations donnent à l'Empire britannique un mandat sur Eretz Israël.
C'est pas cette date-là, c'est pas 1922 que la Jordanie s'est octroyé la Cisjordanie.
Pas du tout. Pas du tout. En 1922, c'est là que commence le mandat britannique à l'Eretz Israël. Alors, ce mandat britannique, c'est quoi ? C'est les nations donnent à l'Angleterre la gestion de tout l'endroit qu'ils ont conquis, qui s'appelle le mandat britannique, qui devra devenir le pays des Juifs.
Dont la Jordanie.
Israël d'aujourd'hui, plus la Jordanie. Vous savez, c'est la fameuse carte qui fait un peu comme ça. Parce que c'est simplement les frontières qui ont été tracées entre les Anglais et les Français. Donc c'est tout, c'est réglé. Ce qui fait que Israël, sous domination britannique, n'a pas du tout le même statut que l'Inde. L'Inde, c'est l'Angleterre. C'est une colonie anglaise. Israël, c'est pas une colonie anglaise. C'est un mandat, c'est un protectorat. C'est la même différence qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie, c'est la France. Le Maroc, ce n'est pas la France. C'est un protectorat français.
La Tunisie aussi.
C'est pas la même chose. Oui, la Tunisie aussi. Alors que l'Algérie, c'est vraiment la France. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, le Rav Kook va être à l'origine de la déclaration Balfour, qui va être à l'origine de la SDN qui vote pour la déclaration Balfour, qui va être à l'origine. Ça n'existe pas à ce moment-là. Pour l'instant, il faut bien que tu comprennes. Il y avait des Arabes, beaucoup, qui habitaient dans tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, qui étaient des. Il y avait des tribus, exactement. Ils vivent en tribus, ils sont arrangés en tribus. Il y en a qui sont à l'est du Jourdain, il y en a qui sont à l'ouest du Jourdain. Il y en a qui sont en Syrie, il y en a qui sont au Liban, mais il n'y a pas de Syrie, il n'y a pas de Liban, il n'y a pas de rien. C'est-à-dire ?
Mais ils se sont octroyés.
Ils se sont rien octroyés du tout. Ils se sont rien octroyés du tout.
Mais la Jordanie, elle est avant 1948.
Je suis d'accord. Mais c'est les Anglais qui leur ont donné. Tout le territoire appartient à l'Angleterre.
D'accord.
Donc les Jordaniens, ils ne s'octroient rien du tout. Ils ne peuvent pas faire face à l'Empire anglais.
Alors, comment ça s'est passé ?
Ça s'est tout simplement passé qu'il y a eu la déclaration Balfour qui a été signée. Vachement plus d'Arabes que de Juifs. Et puis il y a surtout des terrains entiers qui font partie de notre mandat britannique où il n'y a pas un seul Juif. Tout ce qui est à l'est du Jourdain, il n'y a pas un Juif. Et par contre, il y a plein d'Arabes. Ça ne serait quand même pas très très stratégique de dire que là-bas aussi, on va faire un pays pour les Juifs.
Même si c'est contraire
à l'époque. Il fallait découper des royaumes pour les Hachémites.
Alors ça, c'est pas audible. De faire 29 royaumes pour chaque tribu.
Chaque
tribu. Chaque grand chef de région. Les Anglais, ils ne veulent pas. Ils vont faire des grands pays. Ils vont faire l'Irak, ils vont faire la Jordanie. Les Français, ils vont faire le Liban, ils vont faire la Syrie.
C'est des mandats britanniques.
Quoi ?
L'Irak ?
Oui.
On
n'aurait
pas pu occuper
tout l'espace. Pays pour les Juifs. Est-ce qu'on aurait tout peuplé ? Ben pourquoi pas ? J'en sais rien. Le fait est que dans les faits, comme les Anglais ont dit là-bas, il n'y a pas de Juifs, on crée le grand royaume de Jordanie. Terminé.
Et c'était en quelle année ?
Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commence déjà à mettre en place tout ça.
Ah, ils n'ont pas traîné.
Deuxième guerre. Le grand royaume de Jordanie se met en place déjà avant, mais il n'y a pas encore de décolonisation. La décolonisation, ça part après.
Que j'avais entendu que c'était la Jordanie qui avait déclaré, qui avait fondé avant.
Ils ont fondé leur État avant l'État d'Israël, bien sûr. Mais c'est les Anglais qui leur ont donné.
Abdallah qui l'a demandé.
Oui, mais bien sûr, c'est le roi Abdallah. C'est le dernier mot. Mais qui est, face à qui il demande ? À l'Angleterre. C'est à col. Maintenant, pour les Anglais, c'est un win-win. Ils ont un nouvel allié. Et en plus, ils n'ont pas de problème parce qu'il n'y a pas de juifs dedans. Zéro, terminé. Ils n'ont pas prévu de rester, les Anglais, de toute façon.
Ouais.
Donc, c'est réglé.
C'était
pas rentable. Donc, ça, c'est réglé. La Jordanie, elle est réglée. Bon, voilà, saute. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi des Arabes à l'ouest du Jourdain. Et ces Arabes à l'ouest du Jourdain sont exactement les mêmes que ceux de l'est du Jourdain.
Ouais.
C'est les mêmes familles, très souvent. C'est le mec qui habite dans la Bikat Hayarden, qui habite du côté jordanien ou du côté israélien. C'est les mêmes. Avant 1948, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes familles. Donc, ce qui est prévu, le côté est, il est déjà réglé. OK ? Et il s'appelle la Transjordanie. Parce qu'on doit lui ajouter également l'autre côté, comme on dit l'autre côté, la Cisjordanie. Donc il y a la Transjordanie et la Cisjordanie, l'Est et l'Ouest.
Il n'y a pas Israël.
Il y a aussi Israël. On va faire un autre pays, puisque la preuve, il y a le plan de partage de l'ONU en 1947, c'est-à-dire le 29 novembre. Et maintenant, dans ce plan de partage, on ne parle plus de la Jordanie qui est déjà mise en place, mais on parle en fait de tout un territoire qui ne va pas être palestinien, puisqu'il n'y a pas encore de Palestiniens. On ne parle pas de Palestiniens à ce moment-là.
On parle de la Cisjordanie.
On parle de la Cisjordanie qui va être rattachée à la Jordanie, c'est ça le but.
Pour quelle raison ?
Comment ça, pour quelle raison ? Parce que c'est les Arabes, ils sont ensemble, c'est les mêmes tribus. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les mettre ensemble, du point de vue des Anglais.
Que je comprenne bien, oui. Ce que vous appelez la Cisjordanie,
Yehuda Béchambre.
Ce n'est pas tout l'ensemble de notre petit État.
Non. Puisque tu vois bien que dans le plan de partage qui a été proposé par l'ONU...
C'est ce qu'ils réclament jusqu'à maintenant.
Non, ils réclament tout.
C'est ça le problème.
Ah, badaille. Mais ça, c'est ça. Azov, ça c'est un autre problème. Je te parle au niveau international. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce plan de partage qui a été voté. Je vous rappelle, en 29 novembre 47, c'est voté. C'est voté à 33 pour, 13 contre et 10 abstentions. Dont l'Angleterre d'ailleurs, qui s'abstient. C'est elle l'instigatrice de tout ça, mais elle s'abstient. En tout cas... 13 contre, c'est les pays arabes. C'est pas, il n'y a pas de grande surprise sur les 13 comptes. C'est les 10 abstentions qui sont plus surprenantes. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, le vote passe. Et donc, si le vote passe, on doit créer un petit État juif qui va comprendre la Galilée et la côte. C'est-à-dire de Nahariya jusqu'à Ashdod.
Pas
Yehuda Béchamron et pas le Negev.
Avec un couloir de 10
km. Ouais,
et pas le Negev. Et pas le Negev non plus. Le Negev, il va rentrer après parce que finalement personne n'en veut. C'est-à-dire Haïfa, ça commence Haïfa. Ouais, je te fais un schématique. Ouais, parce qu'il y a des villages arabes aussi un peu là-bas. Donc, en fait, où va aller la balouta de Yehuda Béchamron? Ça va englober un peu de la Galilée aussi, bien sûr.
La Galilée.
Ouais, comme ça. Mais qui te sauve? Le problème, il est le suivant. Il est qu'en fait, ce vote, il ne sert à rien. Parce que le 30 novembre, le lendemain, les Arabes, ils rejettent le vote. Donc, comme les Arabes, ils rejettent le vote, pour qu'une résolution des Nations Unies face à deux peuples qui sont en conflit territorial, pour qu'elle puisse avoir une légitimité, il faut que les deux parties acceptent. Or là, les Arabes n'ont pas accepté, donc en fait, le vote des Nations Unies, il n'a pas de légitimité. Ce qui veut dire que la guerre d'indépendance commence. Il y a des nouvelles frontières. Israël a récupéré toute la Galilée, le Negev jusqu'à Eilat, la côte, et les Jordaniens ont pris la Judée-Samarie.
Pendant la guerre?
Ah oui. On n'a pas réussi à conquérir Jérusalem, par exemple. On est coupé à Jérusalem.
Non, il y a ces Jordaniens, ils n'ont pas réussi à la prendre.
Qui?
Les Juifs.
Nous, non, on n'a pas réussi.
Ils se sont octroyés la souveraineté sur tout la Judée-Samarie.
Ils ont fait la guerre.
Ils avaient la souveraineté.
De partage de toute façon, mais pendant 19 ans, entre 48 et 67, la Jordanie gère la Judée-Samarie, mais ne vont pas y mettre leur souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté jordanienne en Judée-Samarie. C'est un État militaire. Ils n'ont pas fait de Sipouar. Ok ? On arrive en 1967, de nouveau la guerre. Sauf que là, cette fois, on gagne.
Et les Juifs, ils font comme les Jordaniens.
Juifs font comme les Jordaniens.
Et pourquoi?
Parce qu'on est bêtes.
Hein?
On est bêtes.
Il y a Rabbi.
T'as vu? Maintenant, quand on te parle aujourd'hui que la Judée-Samarie, c'est des territoires occupés. Maintenant, deux secondes. Au niveau international légal, mais personne n'ose le dire, je ne comprends pas. On le dit en chéquette, il faut attendre que Smotrich soit là. Et il fasse. Il faut le dire. Les territoires de Judée-Samarie appartiennent à qui légalement? D'abord, ils ne peuvent pas appartenir aux Palestiniens, puisqu'il n'y a jamais eu de Palestine. Deux, tu pourrais me dire qu'ils appartiennent à la Jordanie, sauf que non. Puisque la Jordanie n'a pas mis sa souveraineté sur ces territoires-là. Donc, au niveau légal, à qui ils appartiennent? C'est quoi le dernier traité international légal sur ces territoires? Donc, c'est-à-dire que ces territoires nous appartiennent. Ces territoires nous appartiennent, à condition qu'on y mette notre souveraineté. Parce qu'on a fait une terrible erreur depuis 48. Depuis 48, on s'est concentré à être les forts. Et on n'a pas du tout. On pensait que c'était tellement une évidence, notre légitimité était tellement évidente, qu'on ne l'a pas expliqué. On s'est battu, on a gagné. Et plus on gagnait, et moins on parlait. Et moins on parlait, et plus on était fort. Mais moins on était légitime. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a compris que militairement, on n'était pas prenable. Donc il a décidé de faire une guerre autrement. Dans les années 60, des terrorismes qui parmi les Arabes. Et donc à ce moment-là, on va aller chercher un bonhomme qui est réfugié en Tunisie. Parce que c'est un chef de guerre, mais il est incontrôlable et il a plein de sang sur les mains et tout ça.
Qui c'est eux?
Nous, l'État d'Israël. On va chercher un monsieur qui s'appelle Yasser Arafat.
Oui, on l'a sorti de sa poubelle.
Voilà, et on l'amène ici, on le forme, on l'entraîne, on le de tout ce qui peut être les armes, les bombes, les, la communication. Nous, on le forme de A à Z. Bon, il était déjà un chef de guerre à l'époque, mais quand même, on lui donne une... lui, il avait un Torah Rishon, nous, on lui donne un doctorat. Et on pense que comme ça, ça va être notre relais face aux Arabes. Il va gérer toutes les Arabes ici, et nous, on va le gérer. Terrible erreur. Parce qu'on ne l'a pas géré du tout, et il est très intelligent. Au début, il fait des actions armées vite fait, et il comprend tout de suite que militairement, on ne peut pas faire des armes. Ça va là, il va et il va sur le milieu. Est-ce qu'il est devenu le persécuteur?
David, on est devenu
de Goliath. Non, on est devenu des nazis. Les Européens, ils ont un peu de... Hein ? Comment tu dis chez toi ? Un peu de... Rassarma. De ce qu'ils ont fait pendant la Shoah. Ah, ben maintenant, regardez, c'est les Juifs, ils font pareil aux autres.
Une manifestation, là, j'ai un truc, une manifestation de BDS contre Israël. On est là, ils chantent, on est là.
Pour
même Israël de
donc tout ça pour dire que finalement, eh ben, la guerre médiatique, on l'a perdue. Toutes les guerres militaires, on les a gagnées. Mais la guerre médiatique, on les a perdues.
Terrible.
Et donc aujourd'hui, on n'a pas l'air légitime. Et on a continué à appeler ça la Palestine. C'est fantastique. C'est-à-dire qu'Arafat, c'est lui qui va décréter que cet endroit s'appelle la Palestine. Et qu'on est le peuple palestinien. Alors, tout le monde sait que c'est un mensonge. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de Palestiniens. Qu'il y a deux jours, toi, tu étais Bichlal, même pas là, et que les autres, c'était des Jordaniens qui se revendiquaient, pas Jordaniens, mais tribal.
Il est né en Égypte.
Nahon.
Et qu'avant, les Palestiniens, c'était les Juifs.
Et que avant-guerre, les Palestiniens, c'est ma grand-mère.
Sur le drapeau, sur le Larousse de l'époque, la Palestine, c'est le drapeau d'Israël.
Mais évidemment, puisque c'est censé être la Palestine mandataire pour les Juifs. Et que le terme Palestine, Bichlal, ça a été donné par Adrien en l'an 135.
Il marchait mauvais
écho. Oui, tout à fait. Amen.
Souria Palestina.
Mais cette Palestina, il n'y a pas d'arabe à ce moment-là. On est en 135. L'islam va naître dans 500 ans. Ça a l'air. Et donc, c'est qui ces Palestiniens? Ben, c'est les Juifs. Tout simplement.
Oui, puisque il y avait
comme disait Reber Pagani, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans.
Il y a une brigade palestinienne qui a fait la guerre.
Mais évidemment, les brigades juives de Palestine, qui vont être créées par Zev Jabotinsky et tout ça, et qui vont prêter main forte aux Anglais dans la guerre, bien sûr. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que les Juifs qui arrivent en Israël avant 48, avec un certificat, qui ne sont pas des immigrants illégaux, qui sont tolérés par les Anglais, qui sont officiels, ils reçoivent un passeport palestinien. Mmh. Eh oui.
On doit avoir des parents, bien sûr.
Ça a l'air. Donc, tout ça pour dire que la Judée-Samarie, c'est évidemment à nous, mais il serait temps qu'on le dise. C'est tout. On n'arrête pas de dire, c'est pas à nous.
Non. Incroyable.
Ce qui est fantastique avec la création de l'État d'Israël, c'est que c'est nous qui prenons nos décisions. Des fois, on décide de prendre des décisions débiles. Mais c'est quand même nous. Et c'est vachement mieux que quand c'était les autres. Alors, c'est vrai qu'on pourrait aussi améliorer nos décisions.
Mais pourquoi ce cipoir, il a été... On en a parlé. Il y a deux gouvernements. Il n'y a rien qui s'est passé depuis 10 ans.
Mais parce que personne... Il n'y a personne qui va... Tu crois quand même pas que Netanyahou, il a envie de faire un cipoir?
Ça va pas,
une annexion.
Pourquoi?
Mais parce que Netanyahu, il n'a pas du tout envie d'annexer la Judée-Samarie.
Pourquoi?
Mais parce qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes sur le dos.
C'est ça un homme politique?
Mais évidemment que c'est ça un homme politique. Il y a une différence entre un idéaliste et un homme politique. C'est ça? Tu ne peux pas vouloir annexer la Judée-Samarie aujourd'hui si tu n'es pas mené par la Torah. À l'époque, en 48, oui, parce qu'il y avait une politique, il y avait un idéal, pas religieux, mais d'expansion sioniste. Donc, si on avait gagné en 1948 la Judée-Samarie, t'inquiète pas que les gouvernements de gauche de l'époque, Ben Gurion, ils en auraient fait Israël sans aucun débat. D'ailleurs, Rabin, il y a un discours de Rabin qui est mémorable. Il dit que jamais de la vie, lui vivant, jamais de la vie, on donnera la Judée-Samarie. Et ni le Sinaï non plus.
Ni le Sinaï.
Ni le Sinaï. Bon, c'est pas lui qui l'a rendu. Voilà, c'est Begin. Bekitsour, en général, c'est la droite qui rend les territoires et c'est la gauche qui conquiert les territoires. Zemaïch. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est pas prévu d'annexer, mais Bezrat Hashem. C'est comme quand tu regardes la situation absurde qu'il y a sur le monde du Temple. Oui, sur le monde du Temple, je ne rentre pas dans la question halakhique. On a le droit, on n'a pas le droit, il pratique, c'est la Sheela. La Sheela, c'est qui décide de ce qui se passe sur le monde du Temple ? Pas du tout. Pas du tout. C'est l'État d'Israël qui décide. C'est qui va faire descendre ? Imagine un mec qui se prosterne, un juif qui vient et il se prosterne, lui sonne du chauffard. Qui le descend du Harabait et le fait passer en garde à vue ? C'est la police. La police quoi ? Avec un drapeau jordanien là ou avec un drapeau israélien ? Israélien. Ceux qui gèrent le monde du Temple, c'est la police israélienne. C'est Mishmar HaGvoul israélien. Seulement Israël décide de laisser la WAQF jordanienne gérer.
Mais pourquoi cette autorisation au WAQF ?
Parce qu'on a décidé.
Gérer les affaires religieuses.
Parce que tout, de gérer l'administration du Harabait.
On ne peut pas s'occuper
d'eux. Et la police.
La police, elle gère le trouble à l'ordre public.
Mais
on peut décider demain de dire la WAQF, vous dégagez. On peut décider demain qu'on remet en cause des accords avec la Jordanie. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec la Jordanie, on est en paix. Oui, non, on est en traité de paix avec la Jordanie.
On est officiel sur le papier. Hein.
Bah, d'accord.
La Jordanie, elle est en train de reprendre la relation avec l'Iran.
Mais elle fait ce qu'elle veut. Pour l'instant, on est en paix avec elle. Et dans les accords de paix...
Qui viennent de passer 230 armes et 100 kilos d'or...
Non, mais je n'ai pas dit que c'était des tzadikim. Je dis que pour l'instant, légalement, on est en paix avec eux. Maintenant, on est en paix avec eux, c'est une chose. Mais dans les accords de paix, ils ne vivent que grâce à nous. Ouais. Puisque c'est nous qui leur fournissons toute l'euro.
Oui, oui, oui. 55 millions
de... C'est nous qui leur donnons de l'eau. C'est fou.
On a peur des Jordaniens.
Ah, mais ils sont rien.
Ouais,
ils ne sont rien. Et... Toutes les 5 secondes, quand il y a un truc sur le Harabait, le roi de la Jordanie, il vient et il dit « Ah, ça remet en cause plein de choses, le statu quo, il ne faudrait pas que ça remette en cause. » Mais une claque. Tu vis parce que je suis d'accord que tu vives. Mais on n'ose pas.
Ouais, c'est ça.
On n'ose pas. Et j'ai entendu, là, ce n'est pas du tout un cours de Torah, là, vous me donnez une bama alors que, en fait, c'est une discussion de café là, qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Mais j'ai entendu un ancien soldat de l'unité de Shmonematayim qui est perse, qui est iranien, un juif, qui a fait son aller il y a 20 ans, machin, et qui a beaucoup, beaucoup œuvré, machin, là. Et là, il n'est plus militaire, machin, et il racontait dans une interview, il disait, je suis désolé de vous le dire, mais il serait temps que Israël se voit comme une superpuissance, sinon mondiale, au moins régional, mais je suis désolé de vous le dire, mais pour l'instant, et c'est un Iranien qui vous le dit, les Juifs, Israël, l'État d'Israël, on se voit encore comme des petits Juifs persécutés du ghetto. Non, non, nous on se voit comme ça, nous-mêmes. Non, c'est un soldat israélien, mais d'origine iranienne. Il dit, on se comporte comme des petits Juifs d'exil. Qui ne pensons qu'à une seule chose, notre protection, plutôt que penser à mettre l'ordre.
C'est pas faux.
Tous nos systèmes de défense sont des systèmes de défense. Et jusqu'à ce que finalement, ils arrivent à percer nos défenses et on fait une autre défense. On attend comment est-ce qu'on peut ne pas se faire attaquer, plutôt que de mettre en place les conditions. Là, tu pourrais changer. Mais je parle pas que de l'Iran maintenant. D'abord, comment ça le mal est fait ? Tu peux aller attaquer, si t'as envie. Je suis pas expert militaire, j'en sais rien. Franchement, je suis absolument pas qualifié pour le dire. J'ai envie de penser qu'il y a des moyens. Ou alors, développe un moyen, je sais pas, c'est ton boulot. C'est-à-dire, je sais pas comment. Mais développe en moins, c'est ton boulot de militaire. Je sais pas, c'est pas mon travail. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas haut. Hier, mon fils, il est revenu de... ils avaient un tioul avec l'école toute l'après-midi. Et Béchar Agaï. Et après, ils ont eu un téquès le soir, machin. Maintenant, je lui ai dit, alors vous avez appris quoi, Charagaï et tout ça, machin, Babel Oued. Ouais, ouais. Et il m'a dit, mais on a changé. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, c'est quoi la guicha? La guicha, c'est... c'est quoi la vision, l'approche? L'approche, c'est la sécurité des vivres, de la défense à Jérusalem. À Tel Aviv, Jérusalem, Tel Aviv c'est juif, Jérusalem c'est attaqué par les Arabes tout le temps. Comment est-ce qu'on va de Tel Aviv à Jérusalem?
Dans les couloirs.
Par où on va?
La route
numéro 1. Vous avez déjà pris la route numéro 1 de Tel Aviv à Jérusalem? Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est la cuvette et les montagnes autour. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il y a une caravane de blindés à nous, tu parles du blindé, c'est des voitures avec lesquelles on mettait une plaque de fer. Les blindés qui passent, tous les villages arabes qui sont sur les montagnes, ils descendent, c'est terminé. Et il va falloir 2-3 soldats généraux. Les gars, on va se faire utiliser des victimes. Et donc on décide au milieu de la guerre de changer, de faire l'opération Nachshon. C'est quoi l'opération Nachshon? De Nachshon Ben Aminadav, qui saute dedans. Et c'est quoi, à partir de là, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Qu'on arrête de passer par la route et qu'on va conquérir, on va conquérir les villages en haut. Comme ça, ils ne pourront plus nous tirer dessus. Tu passes d'un état de « je me défends » d'un état de « je décide ».
De passif à actif.
Voilà, de passif à actif. C'est alors, Botaï, qu'est-ce que vous dites? Donc, tout ça pour dire que c'est nos décisions. Baruch HaShem, aujourd'hui, c'est nos décisions. Des fois, on prend des décisions débiles, mais c'est nos décisions.
Oui, mais il y a quand même une composante démographique en Judée Samarie.
Oui. Qui est en train de passer. Qui est en train de passer à notre faveur. C'est-à-dire, de plus en plus de juifs font plus de. Enfin, la démographie arabe et juive, ça y est, elle s'est inversée. On fait plus d'enfants que les arabes. De quoi? On a peur de quoi? D'abord, en Jordanie, ils n'en veulent pas. Mais je ne suis pas obligé de leur donner la citoyenneté israélienne. Je peux très bien faire d'eux des citoyens jordaniens qui vivent en Israël, comme un expatrié français qui habiterait aux États-Unis. Ou alors, moi, je n'ai même pas peur de leur donner la citoyenneté israélienne. Je m'en fiche. Parce que moi, j'ai un truc, je ne sais pas, je suis bête, c'est ma faute, mais j'ai un truc qui s'appelle la Emouna dans la Torah. Mais c'est idiot, hein, je sais bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il a parlé de Kibbutz Galouyot. Bien sûr que s'ils deviennent plus nombreux que nous, ça va être un problème. Mais moi, je sais qu'il y a encore 5 millions de juifs en Amérique.
Et dans le nord de l'Inde, etc.
Ah, bon, je vous rappelle quand même qu'en 1988, il y avait à peu près 3,5 millions de juifs en Israël. Et en 88, il y avait les mêmes débats qu'aujourd'hui. Il faut se séparer des Palestiniens parce qu'il va avoir une démographie, c'est pas possible, machin. Tu vois les religieux,
Ouais, religieux. Mon fils, il vient à Tel Aviv. Je prends l'ascenseur, je vois un mec avec une banana comme ça, de 14 cm de haut.
Une banana?
Ouais, ça veut dire une croix en arabe.
Ça vaut le coup. D'abord, c'est nachon qu'il y a eu des juifs et des non-juifs qui sont venus. C'est nachon. Maintenant, deux secondes. Nachon qu'il y a des problèmes par rapport à ça. C'est nachon. Mais deux secondes. Un, ça a réglé un problème énorme à l'époque par rapport aux Arabes. Deux, la réalité. Aux descendants de Russes qui aujourd'hui sont la troisième génération, il faut les vraiment. Mais on facilite la procédure. Tu crois que des chrétiens vont à l'église? Bien sûr que des mecs qui sont prêts à donner leur vie pour le peuple. Mais tu fais pas partie de notre histoire. Donc quand on te rejette de quelque part, bah tu te rattaches à autre chose. Donc je te dis pas qu'il faut faire des conversions light et on te fait passer une signature et on te trempe dans le migré, c'est terminé. Non, on peut faire un vrai au plat de Guillaume, il n'y a pas de problème. Mais c'est barour qu'il y a une vraie chaîne là qui se met en place. C'est barour que le combat de Guillaume entre les Ashkenazim et les Sfaradim, parce que la chita de Guillaume Sfaradite, elle était beaucoup plus simple pour des gens comme oui. ça que les Ashkenazim qui ont été marqués surtout. On a dit que c'était un petit problème, donc je voulais quand même tout c'est juste pour arriver au fait que le Rav Kook n'a pas vu la création de l'État d'Israël, mais il a vu tous les processus qui étaient mis en place, et il a écrit un petit texte que je voulais qu'on étudie ensemble. C'est dans la page Kouf Samer du livre de Horot, dans le sixième chapitre de Horot Israël, Piska 7, page Kouf Samer. C'est ça? Alors, il dit comme ça. Yesh? C'est bon? Yala. Ein. Ah, si vous ne l'avez pas, ça va pas.
Zain.
Kouf Samen.
Zain.
Piska Zain. La page, c'est en haut. En haut, à droite, en haut, à gauche. C'est bon?
Bon.
Yala. Ein. Pas mal, hein? L'État, donc on ne parle pas de l'État d'Israël, on parle de la notion d'État. L'État n'est pas le kiff ultime de l'homme. En Amedina a Osher a Elion shel Adam. Une phrase comme ça, Zenitan le'amer be'medina regila. On peut dire une phrase comme ça par rapport à un État normal. שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. On ne peut dire une phrase comme ça que l'État n'est pas l'idéal de l'homme. On ne peut dire ça que dans un État normal. C'est quoi un État normal? Bah, c'est une חברת אחריות של בני האדם. C'est quoi חברת אחריות? C'est la capacité de garantir la sécurité, la plénitude aux gens qui vivent là-bas. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Rav Kook ? Il dit quelque chose de très simple que nous, on a appris en 6e, 5e. Comment les États se sont créés ? Comment les États se sont créés ? Comment les États se sont créés, Rabotaï ? C'est pas shoot ! Non, sans conquête, pas du tout. Les États se sont créés parce qu'il y avait des gens qui vivaient au même endroit, qui avaient la même plus ou moins langue, qui avaient les mêmes problèmes plus ou moins, et ben les gens se sont arrangés ensemble et ont créé des États. Donc c'est Chevrat Achayut Gedola. C'est-à-dire un État, tous les autres pays, c'est quoi? C'est, ben, on est ensemble, on est là, on veut avoir le même destin, le même... Ah, on se met ensemble. Yalla. Shenisharu amone haideot shen ateret achayim shel haenoshiyut מרחפים ממעל לה ואינה נוגעת נוגעים סליחה בה. Et leurs idéaux sont souvent restés loin dans le ciel, et les pays se sont créés parce que bah voilà, fallait répondre à des besoins clairs. C'est l'écrasante majorité des États, ils ont des idéaux, mais c'est pas forcément mis en pratique.
Mais pour les États arabes, c'est pas le cas.
Pardon?
Les États arabes, il n'y a aucun consensus. C'est des tribus diverses, parfois qui sont opposées les unes des autres, mais qui a été imposé. Ces États ont été imposés par les accords
Sykes-Picot. Mais avant, tu as raison, les États arabes, comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, qui en fait, c'est le seul qui n'a pas vraiment, on s'en fout, l'Arabie Saoudite, c'est toujours la même tribu qui gère. C'est juste qu'ils ont changé de statut. Qu'au lieu d'être une tribu qui gère toute une région, ils sont une tribu qui gère un pays. Bon, ça a l'air. L'Arabie Saoudite, ça n'a pas tellement changé. Mais tu prends les Émirats Arabes Unis, Bah, c'est plein de tribus qui ont dit, viens, on se met ensemble pour avoir des reconnaissances internationales. Mais en vrai, chaque émirat, il se gère tout seul. Et chaque émirat, il est géré par sa tribu. C'est-à-dire ? Donc en fait, c'est oui, ça revient plus ou moins au même. Mash et Enken, donc tout ce qu'on vient de dire sur les états normaux, ce n'est pas le cas pour une Medina Sheibi Soda idéalite. Ce n'est pas le cas d'une médina, d'un État qui serait à son origine idéal. C'est idéal. Shechakuk be'avayata tochen ideali ayoter elyon, qui est inscrit, gravé dans sa vie au quotidien. L'individu, son kiff le plus grand, c'est de vivre quelque chose de grand. De faire partie de quelque chose de grand. Maintenant, on est en quelle année? On est dans les années 20. Il n'y a pas encore d'État d'Israël. Le Rav Kook voit bien que les gens qui sont en train de créer ce futur État d'Israël ne sont pas religieux. Mais qu'est-ce qu'ils portent comme idéaux? Ben, l'idéal à Yoter Elion. À Kadosh Baruch Hu, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'il te dit, Medina Zo, un état comme celui-là, comme je suis en train de te décrire, Ibehemet Ayoter Eliona Besulama Osher. Un état comme ça serait vraiment au top du top de la plénitude. Medina Zo, Hi Medina Tenu. Voilà, cet état idéal, c'est notre état à nous. Il n'y a pas encore d'État. Nahon, il voit que c'est en train de se mettre en place. Medina Zo, hi Medina Tenu. Medina Tisrael. Od Nevoa Shel Rav Kook. Je vous rappelle que pour l'instant, non seulement il n'y a pas de pays, mais il n'y a pas de nom au pays. C'est-à-dire que même lorsqu'on va décider de créer l'État d'Israël pendant les deux jours qui précèdent la déclaration d'indépendance, l'un des grands débats, c'est comment va s'appeler cet État. Sion, Yehuda, il y a plein de noms qui sont proposés. Entre autres, Medinat Israël, sauf celui qui va être retenu. Mais à l'époque du Rav Kook, on ne le sait pas encore.
Et c'est très bien parce que je sais pas. Alors, quand c'était David David Shlomo en Amérique, oui. C'était pas l'État d'Israël.
Ça s'appelait Mamlechet Israël.
Alors pourquoi ils n'ont pas tout pris tout de suite Mamlechet
Israël? Ah, parce qu'on n'était pas une royauté.
Mais bon, alors.
Ça devient Médina.
Eret Israël.
Ah, ça aurait pu être. Il y a un des noms qui a été proposé, c'était Eret Israël.
Non, mais parce que vous dites, ils ont cherché.
Ouais, au début.
Oui, il y avait plein de gens qui proposent, ils voulaient proposer des choses. Ouais, puisque je te rappelle que pendant 2000 ans, on est devenu des Yehoudim.
Je sais.
Donc il y en a plein qui ont proposé. Yehuda. La Judée.
Ouais.
Hein? Finalement, l'option qui a été retenue, c'est Médinat Israël. C'est-à-dire en français. L'État du peuple d'Israël. Ok ? L'État d'Israël. Donc, notre pays ne s'appelle pas Israël, il s'appelle l'État d'Israël. Le nom officiel du pays. C'est vrai ? Tu ne dis pas je vais en Israël. Je vais dans l'État d'Israël. C'est vrai ? Medina d'Israël. Mais regardez ce qu'il dit. C'est quoi Medina d'Israël ? Yesod Kise Hashem Ba'olam. Voilà. Si vous posez la question, qu'est-ce qu'on fête ce soir? On fête la création de la base du trône céleste dans le monde. C'est ça l'État d'Israël. Voilà. Que tu comprennes bien.
Hein?
On fête ce soir la création de la base du trône céleste dans le monde.
Ça règle le problème du Hadel.
C'est pour ça que les nations du monde.
Ah, c'est caché.
L'animal.
C'est d'autant plus caché quand toi tu le dis pas. C'est ça qu'on est, mais on ne le dit pas. Caché. Faut le dire. Chez Kol Chevtza, ou chez Yé Hashem Echad ou Shmo Echad. Tout le but de l'État d'Israël, c'est Hashem Echad ou Shmo Echad. Mais il faut le dire. Il faut le vivre. Malheureusement, il y a plein de gens qui ne le disent pas et qui ne le vivent pas. Chez Zeu Behemet Aosher Ayoter Elion. C'est ça le top du top, que Dieu y soit Hashem Echad ou Shmo Echad dans le monde. C'est ça l'idée. Emet. Chez Osher Nisgavze, le Rav Kook, il n'est pas aveugle et il n'est pas utopiste. Il voit très bien dans quel monde il vit. Donc il dit Emet, chez Osher Nisgavze, que ce top du top, Tsarich hu le biur aroch. Pour arriver à ça, il faut une grande vérification et il faut beaucoup de perfectionnement. Ça prend énormément de temps. C'est biur aroch. C'est-à-dire kedé la alot oro bimechosher. Pour voir cette lumière prendre le pas sur l'obscurité de l'exil, ça prend du temps. C'est pas en 75 ans. L'athlète, ça prend du temps.
On a fait du chemin.
On a fait énormément de chemin. Oui, mais tu crois pas que pouf, donc le Rafou dit, moi je suis dans les années 20-30, j'ai dit bon, voilà l'idée, je sais que c'est ça que ça va être, je sais que ça prend du temps.
Ça fait déjà plus d'un siècle.
Ça fait 100 ans. Mais c'est quoi 100 ans par rapport à l'éternité?
Oui, d'accord.
Et c'est quoi 100 ans par rapport à 2000 ans d'exil?
Ouais, surtout.
Et c'est quoi 100 ans par rapport à la sortie d'Égypte? Ça prend du temps d'arriver au Beth Amikdash. Alors Bezrat Hashem, ça ne prendra pas 480 ans. Bezrat Hashem. Ah, mais sois pas devant. La chèze yitzer be'ur aroch kede la'alot oro bimechosher. Aval, l'homme ipneze. C'est pas parce que ça prend du temps à se mettre en place de manière totale. She'yichdal miliyot ha'osher ha'yoter gadol. C'est pas parce qu'on n'y est pas encore arrivé au top qu'on n'est pas conscient que c'est déjà ce qui est en train de devenir le top du top. Dit le Rav Kook, l'État d'Israël, c'est la base du trône céleste dans le monde. Ça va prendre du temps avant que tout le monde en soit conscient, mais c'est pas parce que tout le monde n'en est pas encore conscient que c'est pas ça.
C'est prophétique. Hein.
C'est prophétique. Il y a des gens qui te disent comment tu peux dire le Hallel, il y a encore la Gepraïd à Jérusalem. Ben, c'est cachot. C'est pas bien la Gepraïd à Jérusalem, il faut se battre contre la Gepraïd à Jérusalem, mais c'est quand même extraordinaire l'État d'Israël. Donc, même s'il y a encore des choses à régler, il y en a, on les règle, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça n'empêche pas que on vit quelque chose de fantastique.
C'est un problème de communication, finalement.
Ceci dit, j'entends que tu acceptes la guéprate.
Pourquoi j'accepte?
Parce que tu as dit qu'il faut se battre contre la guéprate à Jérusalem.
Sous-entendu. Ah non. Je dis. Alors, pour les internautes et pour le peuple, il faut se battre contre la gay pride partout. Je ne suis pas pour aucune manifestation de ma sexualité en public. Je trouve ça honteux que les gens sortent en public manifester pour dire à tout le monde quelle est leur préférence sexuelle. La sexualité, c'est quelque chose d'intime, et ça doit le rester. Donc voilà. Ça a l'air. Tom, Chazak ou Baruch ?
On pourrait manifester comme quoi on demandait.